Nous allons écouter maintenant Alban Godefroy, donc, que certains connaissent très bien, puisqu'il enseigne notamment dans les TD de licence, et que je remercie encore une fois, puisqu'il a accepté voilà, de remplacer au pied levé voilà, un doctorant qui avait dû annuler sa participation voilà, à la dernière minute. Alors, les travaux d'Alban, ils portent sur le château de Caen, dont il mène donc l'étude architecturale, archéologique et historique, sous la direction donc de Luc Bourgeois et sous la forme d'une thèse voilà, CIFRE avec la ville de Caen, avec la mairie de Caen. Alors, il avait déjà effleuré le sujet finalement en 2019, donc avec un sujet de master portant justement, encore une fois, sur le château, cette fois du 11e au 20e siècle, donc avec la réalisation par ailleurs d'un système d'information géographique, donc SIG. Je vais vous transmettre de la même manière ces informations enfin, de sa page chercheur via le chat, si vous désirez voilà, en savoir plus. Et normalement, Alban, tu devrais pouvoir partager ton écran.
Alors, je partage, merci. Je pense que là, on voit bien
Ouais,
la
tout est parfait.
diapositive. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux et si nombreux. Alors, je vais effectivement vous parler de mon travail sur le château de Caen. De la forteresse ducale à la caserne Lefèvre, étude architecturale, archéologique et historique, une étude qui va du 11e siècle jusqu'au 19e siècle. Je vais commencer tout d'abord par faire un rapide bilan de l'état de l'art, de la recherche, parce que cette thèse, elle s'inscrit dans un contexte bien particulier. Cette thèse, elle s'inscrit dans un contexte qui fait suite à près de 70 ans, alors 70 ans non continus évidemment, mais près de 70 ans de recherche archéologique et historique au château de Caen. Il y a eu des fouilles anciennes, du côté des opérations archéologiques, il y a eu des fouilles anciennes entre 1949 et les années 60, réalisées par Michel Deboire, du côté de l'église Saint-Georges, dans le donjon, la salle de l'échiquier, le vieux palais. Et puis, je mets de côté quelques opérations relativement mineures en 1992 et 1998, mais il y a eu, depuis 2005, un certain nombre d'opérations récentes dans le château et qui ont pas mal renouvelé les connaissances sur le château. Mais en dehors d'une publication sur ces opérations récentes dans la partie ouest du château et une synthèse de 1979 par Michel Deboire, il n'y a pas encore de synthèse depuis tout ce temps-là sur le château de Caen, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de nouveautés au niveau archéologique depuis 2005. Ensuite, côté texte, on a quelques travaux épars depuis le 19e siècle. Plus récemment, on va surtout noter l'existence des travaux de Laurence Jean-Marie, qui a surtout travaillé sur les habitants du château au Moyen-Âge. Mais pas énormément d'études. Par contre, depuis 2019 et le début du projet collectif de recherche sur le château de Caen, il y a eu une très importante collecte des sources écrites qui était réalisée par Adrien Dubois, Laurence Jean-Marie, Étienne Faisan, Antoine Devin, Luc Bourgeois et un petit peu moi-même, sur des sources qui vont essentiellement du 14e au 18e siècle. Et donc on a plusieurs centaines de textes qui sont pour la plupart des documents qui sont liés à des travaux, des devis, des comptes, des projets, qui sont liés également à des rôles de montre ou à des registres de tabellionnage. Donc des centaines de documents qui ont été dépouillés et édités dans les rapports du PCR. On a donc là une vraie manne documentaire qui jusqu'ici n'avait pas été très étudiée, en tout cas pas dans son entièreté. Du côté de l'iconographie et de l'histoire de l'art, il y a quelques études qui ont été faites, je pense à des travaux sur la salle de l'échiquier par Édouard Impey, je pense à quelques études qui ont été réalisées par Étienne Faisan sur l'église Saint-Georges, le logis du gouverneur, mais là encore, pas énormément de travaux. Par contre, un très très grand nombre de documents iconographiques ont été inventoriés depuis 2019. On a de vraiment très nombreuses représentations du château, en plan ou en profil au 18e et 19e siècle. On a des photos anciennes, avant et après les bombardements. On a des gravures, etc. Et cette documentation est véritablement exceptionnelle pour un site archéologique. Donc, question archéologie, question texte, question iconographie, on a énormément de sources. Et puis, ce travail, il prend place dans le contexte du réaménagement complet du site du château par la ville de Caen, dans le cadre du schéma directeur. Donc, pour les années à venir, le château va être entièrement réaménagé. Et dans cette, dans la continuité, dans le prolongement de ce réaménagement, il y a depuis 2019 un projet collectif de recherche, hein, j'en parlais, qui a été mis en place par Luc Bourgeois et qui consiste essentiellement à rassembler l'ensemble de la documentation, tout type de sources et toute période confondue. Donc cette thèse, elle prend place dans ce contexte-là. Alors, pour faire un bilan très rapide de ce que je viens de dire, beaucoup d'opérations archéologiques, anciennes et nouvelles, de très nombreux textes, et ça continue d'arriver, tout n'a pas encore été dépouillé, une exceptionnelle documentation iconographique, mais toujours pas de nouvelles synthèses depuis 1979. Et puis, il y a un certain nombre d'aspects de la recherche qui, jusqu'à présent, sont restés en grande partie dans l'ombre. Alors d'abord, l'étude architecturale. Si on met de côté deux parties de l'enceinte, donc ici, l'enceinte nord-ouest, et ici, la partie au nord-est, si on met de côté ces deux parties d'enceinte, il n'y a jamais eu d'étude architecturale, d'étude d'archéologie du bâti qui a été réalisée, si ce n'est dans une moindre mesure du côté du donjon et du vieux palais ici, mais de façon un peu plus anecdotique. Et ce, malgré un état de conservation très bon de certains édifices et l'intérêt certain des bâtiments qui subsistent. Donc ça, c'était un premier aspect, pas d'étude architecturale qui a été réalisée jusqu'à présent. Et puis, un autre aspect qui a été beaucoup délaissé, pas entièrement, mais beaucoup, ce sont les siècles qui ont suivi le Moyen-Âge. Michel de Beauharnais ne s'y est presque pas intéressé, et assez peu de travaux ont été réalisés sur le château entre le XVIe et le XXe siècle. Donc il s'agit de combler une lacune de ce point de vue. Donc ma problématique, mes objectifs, ça va être la mise en évidence des grandes périodes de chantier dans le château, les grandes phases, les grandes évolutions. Un pan important de ma recherche, ça va être l'analyse des éléments défensifs du château. Donc ce sont la défense des accès, les ouvertures de tir, les mâchicoulis, les caponnières, fausses braies, les barbacanes, avec un accent qui sera mis sur l'étude de leur fonction, leurs évolutions, l'estimation de leur potentiel défensif, leur adaptation selon le contexte historique, etc. Un autre pan très important de cette recherche, ce sera l'étude de l'organisation spatiale du site, à partir des données archéologiques, des données textuelles et des données iconographiques, avec la mise en évidence de l'évolution de la topographie, les fonctions des différents bâtiments ou pôles de bâtiments, donc des fonctions de résidence, d'artisanat, de stockage, en particulier par exemple le stockage d'armes de guerre, on a pas mal de sources qui en parlent. Et puis il y aura une réflexion sur l'articulation des différents pôles entre eux, notamment avec la relation entre l'espace noble, hein, constitue plutôt dans ce coin-là, hein, le donjon, le vieux palais, donc entre l'espace noble et le quartier paroissial, dans l'autre partie du château ici. Et le tout avec la prise en compte de la longue durée pour réellement appréhender le devenir de la forteresse. Donc l'idée générale, en quelques mots, c'est de retracer l'évolution de la forteresse sur toute sa durée d'existence, depuis sa construction jusqu'à la perte de son statut de place forte en 1881. Alors je vais faire maintenant une très rapide présentation du site, pour qu'on puisse appréhender hein, les évolutions dans les grandes lignes très rapidement. Alors, le XIe siècle, on le sait, le château est construit par Guillaume le Conquérant dans les années 1060. On sait très peu de choses quand même sur le château à cette époque-là. On peut dire quelques petites choses sur ces bâtiments ici. Donc ce sont des restitutions qui ont été proposées par le musée de Normandie. Sont des restitutions, des propositions de restitution. Bien entendu, tout n'est pas complètement attesté. Ce qu'on peut dire, c'est ici l'existence de plusieurs bâtiments qui sont interprétés comme le palais ducal de Guillaume, construit par Guillaume le Conquérant, avec les éléments constitutifs habituels de ce type de structure, hein, avec une caméra, une aula et une chapelle. Également ici, la présence qui a été repérée en fouille d'une tour-porte, qui constituait l'accès principal du château. Peut-être, c'est un peu moins certain, mais c'est très probable, l'existence d'une porte, une petite porte ici, qui permettait d'accéder à la ville. Et dernière chose, c'est la présence d'une église, ici, l'église Saint-Georges. Tout le reste, on ne sait pas. On n'a pas d'idée précise de ce qu'il pouvait avoir dans le château à cette époque-là. Je passe ensuite au XIIe siècle, avec principalement la construction de la salle de l'échiquier, donc qui est une salle de prestige, une aula, construite au début du XIe siècle, la construction du donjon, de la tour maîtresse quadrangulaire par Henri Ier Beauclerc dans les années 1120, une grande salle construite par vraisemblablement Henri II Plantagenet dans la deuxième moitié du XIIe siècle et qui peut-être constituait une sorte de doublon de la salle de l'échiquier, une prison ici, et le reste, eh ben, on ne sait pas, il y avait toujours l'église, des habitats liés à la paroisse, mais on n'a pas d'indication précise sur la topographie du site. Je passerai rapidement, j'en arrive au XIIIe siècle. Alors XIIIe siècle, on a en 1204 la conquête de la Normandie par Philippe Auguste, ce qui donne lieu à la construction ici de cette chemise quadrangulaire avec quatre tours d'angle qui viennent enserrer le donjon d'Henri Ier. Donc là, c'est un message politique fort qui est adressé par Philippe Auguste. Hein, l'idée, c'est vraiment d'encercler l'ancien adversaire plantagenet. Et l'ancien accès principal du château, qui se trouvait ici, est donc réduit à une plus petite porte, ce qui entraîne la nécessité d'installer une nouvelle porte dans le château. C'est la porte des champs qui se trouve ici, et dont sur laquelle je m'étendrai tout à l'heure. Ensuite, je passe assez rapidement. Au XVe siècle, on a quelques petites évolutions aussi, avec principalement la construction de la tour Mathilde ici, très vraisemblablement, l'installation possible d'une terrasse d'artillerie ici, d'un boulevard d'artillerie ici, et puis quelques évolutions ponctuelles, mais qui sont beaucoup plus difficiles à retracer dans le reste de l'enceinte du château. Et je vais très vite sur la suite. 16e, 18e siècle, on est sur une période où le château sert beaucoup de garnison, construction d'un cavalier d'artillerie ici, des bâtiments qui sont beaucoup mieux connus parce qu'on a des plans pour cette période-là. Donc la cour du château est beaucoup mieux connue désormais. Et puis j'enchaîne à nouveau très rapidement avec la Révolution, le donjon qui disparaît, la porte Saint-Pierre également qui est entièrement détruite puis reconstruite, l'aménagement de nouveaux systèmes de fortification dans le nord du château. Voilà, ça c'était vraiment pour une présentation très très rapide, très globale du château. Et puis, ce que je souhaiterais faire maintenant, c'est faire un zoom sur un édifice clé du château de Caen, c'est-à-dire la Porte des Champs, donc cet édifice qui se trouve ici. Un édifice clé parce qu'il a des fonctions défensives très importantes, et puis des fonctions résidentielles, et il s'intègre vraiment dans l'ensemble de la fortification, et c'est vraiment un point qui m'intéresse particulièrement, et c'est principalement sur ce point que j'ai travaillé depuis le début de ma thèse, depuis l'été dernier. Alors pourquoi s'y intéresser? C'est un bâtiment qui est très peu étudié. Il n'y a eu aucune étude exhaustive, pas de publication, juste quelques mentions dans des publications générales, et pourtant c'est un bâtiment qui est en excellent état de conservation dans l'ensemble, un peu moins dans le détail, mais dans l'ensemble, c'est un très bon état de conservation. Et puis, c'est un des édifices qui a le plus conservé son aspect médiéval initial, malgré de nombreuses transformations successives. C'est également un bâtiment qui a connu une occupation quasiment continue, de son origine jusqu'au XXe siècle, et même encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc, il y a eu une opération d'étude du bâti qui a été enclenchée l'été dernier. On a également mis en place un relevé 3D qui est encore en cours avec la société Norme 3D. Et puis, il y a eu récemment une campagne de prélèvement des bois pour analyse dendrochronologique. Et j'en redirai un mot tout à l'heure. Alors, je vais commencer par faire une présentation succincte de l'édifice. On a affaire à un châtelet d'entrée qui est constitué de deux tours en forme de U. On ne voit pas forcément très bien sur la façade nord-est comme ça, mais on a deux tours en forme de U. On le voit mieux en plan. Donc ici, c'est un plan du rez-de-chaussée, donc ces tours en forme de U, comme ça. Avec des pièces au rez-de-chaussée, constituées d'archères, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, des deux côtés. Un passage charretier, pourvu d'une herse ici. On a des vantaux ici. Et puis un passage piéton, qui aujourd'hui est muré, mais un passage piéton qui permettait de passer ici dans ce couloir, depuis l'extérieur jusque le milieu à peu près du passage. Ce passage piéton, le couloir qu'on voit ici en photo. Des portes également qui permettaient d'accéder au rez-de-chaussée, dont on a un aperçu ici, à l'intérieur, assez peu accessible malheureusement. Je passerai rapidement sur la description. J'enchaîne avec le premier étage. Alors il y a les deux tiers du premier étage ici qui ne sont pas du tout accessibles parce que ce sont des locaux en fait de la police municipale. Donc c'est des lieux qui sont entièrement recouverts d'enduits récents, de placos, donc on ne peut pas faire d'observation. En revanche, dans la partie là, on a une pièce qui est très bien conservée, très intéressante, avec des maçonneries qui sont vraisemblablement pour beaucoup d'entre elles en tout cas d'origine. Plusieurs archères, d'un côté comme de l'autre, hein, plusieurs archères assez classiques, un escalier en vis qui permet la distribution dans les étages, et puis une petite salle ici à laquelle on accède par cette porte-là à droite de la cheminée, une salle de tir en fait qui donne sur la façade. Au deuxième étage, on a plusieurs pièces qui sont séparées par des cloisons en pan de bois, donc je m'étendrai un tout petit peu plus sur ces cloisons tout à l'heure, et qui forment des couloirs de part et d'autre du bâtiment. Un couloir ici et un couloir ici, qui sont prolongés par des escaliers qui épousent l'arrondi des tours et qui permettent d'accéder à l'étage supérieur. Et puis deux pièces qui sont pourvues de cheminées ici. Ici quelques photos de cette pièce ici, donc avec la cheminée là, l'escalier qui épouse l'arrondi de la tour et la cloison en pan de bois. Je passe au troisième et dernier étage. Un étage qui est constitué d'un mâchicoulis ici. Alors vous en avez vu l'aspect extérieur tout à l'heure, je reviens dessus très rapidement. Hein, voilà le mâchicoulis ici. Et je reviens au troisième étage. Du côté intérieur, le mâchicoulis donc ici, avec une partie ici avec des pavés qui constituent le chemin de ronde ici, qui est séparé du reste de l'étage par une cloison en pan de bois. Et donc le reste de l'étage qui est pourvu de cheminées et qui donc avait des fonctions résidentielles. Enfin, des latrines ici. Qu'on retrouve ici en photo, des latrines qui complètent l'ensemble. Quelques photos de cette pièce ici, hein, donc avec la cheminée, le pan de bois, qui est cette partie-là du pan de bois qui est très bien conservée, hein, le reste étant une reconstruction récente, mais cette partie-là est très bien conservée, donc c'est cette partie-là ici. Et puis ici, c'est un aperçu de la numérisation 3D qui est en cours, dans la porte des chambres, donc le deuxième et le troisième étage ainsi que la charpente ont été entièrement numérisés. Il y a encore du travail de post-traitement sur les données, mais voilà, c'est en cours, et puis les autres étages viendront ultérieurement. Je passe un petit peu vite. Voilà. Alors, après ce très rapide aperçu descriptif du site, je vais passer aux résultats de l'étude que j'ai réalisée avec une restitution partielle de la chronologie de l'édifice. Alors, dans un premier état, on est donc à partir du tout début du XIIIe siècle. Dans un premier état, on a affaire à un bâtiment qui a une disposition relativement similaire à l'état actuel, avec deux tours en forme de U. Donc c'est l'état primitif, il est ici en rouge, donc ces tours en forme de U. Mais il faut imaginer ce châtelet avec une façade, ici la partie en bleu et jaune, une façade qui était moins avancée qu'aujourd'hui. c'est-à-dire qu'elle était à peu près 2 mètres plus loin derrière. Alors les maçonneries primitives semblent avoir assez peu évolué apparemment hein, au fil des siècles, sauf dans les parties hautes, ces parties hautes ici, sont pas mal évoluées. Mais les parties du XIIIe siècle semblent avoir très peu évolué, si ce n'est quelques rejointoiements ou quelques reprises ponctuelles. En tout cas, en l'état des connaissances et avec les difficultés d'accès, hein, puisqu'il n'y a pas eu de possibilité d'installer d'échafaudage pour aller voir ça de près, donc ce sont des observations à l'œil nu ou sur photo. Voilà l'aspect que ça devait avoir à peu près au XIIIe siècle. On peut faire une comparaison avec le château de Dourdan, qui se situe dans l'Essonne, qui est un château qui est particulièrement typique de l'architecture philippienne de la première moitié du XIIIe siècle. Donc avec des tours en forme de U ou en forme de fer à cheval, avec une façade qui, comme on le voit par rapport à la porte des champs à droite, une façade qui est un petit peu plus enfoncée dans la partie centrale et à peu près un ou deux mètres plus loin que l'extrémité de l'arrondi des tours. Et puis il faut également imaginer la porte des champs un petit peu moins haute que ce qu'elle n'est aujourd'hui, un petit peu comme le château de Dourdan que j'ai essayé de mettre à l'échelle. Alors du côté sud-ouest, côté intérieur du château, les modifications semblent plus nombreuses, mais assez peu lisibles. Ça a l'air d'être cette façade est beaucoup plus hétérogène. Ce qu'il y a d'origine du XIIIe siècle, c'est les fentes ici, les fentes d'éclairage. C'est l'escalier en vis qui se trouve ici et qui dessert les étages, qui est éclairé par ces fentes d'éclairage et qui sont d'origine malgré une petite reprise dans l'une d'elles. Et l'autre élément qui est assurément de la phase primitive, c'est cette porte, ou en tout cas le linteau de la porte, puisque c'est un linteau sur coussinet concave avec un arc de décharge en plein cintre, qui évoque plutôt le XIIIe siècle. Alors le passage chartier initial était moins large qu'aujourd'hui, donc ça j'y reviendrai tout à l'heure, hein, le passage a été élargi ultérieurement. Ce passage, comme je le disais, était défendu par une herse dont on a conservé les rainures, qu'on voit ici en photo, la rainure ici du côté nord-ouest et la rainure ici du côté sud-est. Donc une herse, des vantaux et puis un assommoir, hein, quand on se place ici et qu'on lève les yeux, on voit l'assommoir, hein, donc un dispositif qui permet de lancer des projectiles sur d'éventuels assaillants. Donc là, ce dispositif vantaux-herse-assommoir, c'est une configuration qui est tout à fait classique de l'architecture castrale du XIIIe siècle. Alors comme je disais tout à l'heure, on entrait dans les deux tours initialement par ces portes, ici et ici. De ce côté-là, cette porte permettait d'accéder au rez-de-chaussée, mais aussi à l'escalier. Et de ce côté-là, cette porte permettait d'accéder à cette pièce, mais cette porte a été ensuite bouchée, hein, donc comme on le revoit à nouveau ici. Cette porte a été bouchée lorsque l'escalier ici, cet escalier en pierre, a été construit. Concernant le premier étage, on peut pas en dire grand-chose, je vous le disais, hein, cet étage, il est aujourd'hui occupé par la police municipale. La partie la mieux conservée reste quand même intéressante. Ce qu'on peut en dire, c'est que les archères qui sont présentes dans cet espace-là sont sans doute attribuables à l'édifice primitif du XIIIe siècle. Et l'escalier en vis, ça reste un des éléments intéressants. L'escalier en vis a à moitié disparu, mais il reste quand même très intéressant. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, les archères étaient c'était des archères à ébrasement simple, avec des linteaux sur coussinet, donc là aussi c'est tout à fait classique. Et sinon, dernier point sur cet étage, c'est qu'il était très vraisemblablement surmonté d'une voûte, contrairement à aujourd'hui, où c'est un solivage, hein, des solives en bois. Mais initialement, ça devait être une voûte, et je vais expliquer pourquoi dans un instant. Alors j'arrive au deuxième étage. Au cours de la première phase de l'édifice au XIIIe siècle, ce deuxième étage, c'est le dernier étage, et il était situé environ 80 cm plus haut que le niveau de sol actuel. Alors, je vais expliquer pourquoi je peux faire cette interprétation. On a d'abord ici sur cette photo, on est au troisième étage, ici sur cette photo, on a une arrière-voussure dans la maçonnerie sud-ouest, une arrière-voussure qui est recoupée par le niveau de sol actuel. Une arrière-voussure qui peut être daté du, selon la typologie, ça peut être daté aux alentours du XIIIe ou XIVe siècle. Et c'est recoupé par le niveau de sol actuel. Qu'est-ce qu'on a encore? La feuillure de cette porte, la porte ici, là, la porte qui est ici au deuxième étage, on la voit encore dans la partie haute au troisième étage ici. Là encore, coupée par le niveau de sol actuel. Une autre porte de l'autre côté du bâtiment, toujours au deuxième étage, dont la feuillure s'arrête ici à environ à peu près 80 cm du niveau de sol actuel. Donc, ce qui indique que le seuil de la porte était situé à peu près à cette hauteur-là initialement. Et cette porte, quand on la regarde depuis l'extérieur, on constate qu'il existe un linteau, ici un linteau droit, qui montre que la porte était plus haute qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis enfin, on peut restituer plusieurs ouvertures qui sont identifiables comme des créneaux et qui sont également coupées par le niveau de sol du troisième étage. Ces créneaux-là, on peut les voir très clairement dans les maçonneries à l'extérieur. C'est particulièrement visible ici. Ici, il faudrait pouvoir zoomer pour bien voir, mais en tout cas, on voit bien les créneaux qui se dessinent à partir des observations extérieures. On peut le voir aussi à l'intérieur du bâtiment. Certains créneaux sont identifiables à l'intérieur du bâtiment et on constate que c'est toujours coupé par le niveau de sol du troisième étage. J'imagine qu'il devait y avoir un créneau ici à cet emplacement-là, mais il a été remplacé par l'installation des latrines ultérieurement. Et de l'autre côté du bâtiment, ça donne ça. Donc de la même façon, au même niveau, on trouve des créneaux bouchés. Et donc ça nous permet d'avoir un aperçu de la partie sommitale de la porte des Champs au XIIIe siècle. Donc beaucoup d'indices qui nous montrent que le niveau de sol était initialement plus haut qu'aujourd'hui. Un autre point encore sur cette phase, c'est que dans la quasi-totalité du deuxième étage, les parties basses des maçonneries sont constituées d'un petit appareil de moellon calcaire sur environ 60-80 cm de hauteur. Et cette caractéristique, je pense qu'elle est sans doute liée au changement de niveau de sol. Et une hypothèse possible, ce serait de dire que elle serait liée à cette maçonnerie du moellon serait liée à l'existence potentielle de voûte au-dessus de l'étage inférieur donc. Et lors de l'arrachement de la voûte au moment du changement de niveau de sol, on aurait remplacé la voûte par un plancher et on aurait repris les maçonneries avec des moellons. Un changement majeur intervient au XVe siècle. Donc là, vous l'avez compris, c'est le rehaussement de la porte des Champs avec un changement de niveau de sol. Rehaussement, donc c'est toute cette partie-là en haut qui vient surélever le bâtiment d'un peu moins de 2 mètres. Et ce changement, il survient vraisemblablement aux alentours de 1400. En tout cas, c'est mon hypothèse actuelle. C'est ce que suggèrent deux textes qui évoquent des travaux de fortification dans la porte des Champs. En tout état de cause, cette évolution, elle intervient avant 1436. Là, on a un texte qui nous parle d'évolution de manière beaucoup plus claire, j'en parlerai juste après. Donc c'est sûr que le rehaussement, il intervient avant. Et puis toujours en 1400, donc sur cette même première phase du XVe siècle, hein, il y en a deux, c'est l'installation d'un pont-levis externe. C'est un pont-levis à flèche qui est installé. Là encore, c'est un texte qui nous permet de le savoir. Un texte qui évoque l'installation d'un pont-levis à flèche entre deux ponts dormants. Donc un pont dormant ici, un second pont dormant ici, et donc le pont-levis à flèche externe. Et d'après les dimensions données par les textes, ça donnerait donc une configuration de ce type, hein, comme le montre ce montage assez grossier, hein, que j'ai fait. Donc un pont-levis externe, comme on en voit non intégré dans la maçonnerie, comme on en voit certains exemples sur certaines représentations figurées du XIVe ou du XVe siècle, on voit vraiment bien les bras du pont-levis qui sont à l'extérieur et qui sont actionnés depuis l'extérieur du château, comme ici sur les treillages d'or du duc de Berry. La deuxième phase du XVe siècle, hein, dans un état 2B, hein, c'est un état qui peut être qui est intéressant parce qu'il permet d'associer le contenu d'un texte avec les observations de terrain. Ce qui est relativement rare en archéologie. Donc on a un texte qui est daté de 1436, donc en plein cœur de la guerre de Cent Ans, hein, pendant l'époque où la Normandie est sous le contrôle de la couronne anglaise. Et ce texte ordonne la construction d'une nouvelle façade sur toute la hauteur du bâtiment, afin d'encastrer les bras d'un pont-levis, avec donc désormais un Polovic qui s'encastre dans la maçonnerie, hein, comme on le voit ici. Ce sont des travaux qui sont, semble-t-il, effectués assez rapidement, puisqu'on a un texte de l'année suivante qui évoque la livraison de cordes pour le nouveau pont-levis. Et sur le terrain, on peut observer effectivement que la façade nord-est n'est pas chaînée. Alors, je ne sais pas si ça se voit sur cette photo, qui est peut-être légèrement floue, mais en tout cas, on voit clairement que la façade avant n'est pas chaînée avec le reste des tours. Ces travaux d'avancée de la façade donnent lieu également à l'installation de la porte piétonne qu'on voit ici, et donc le couloir qui vient s'installer dans l'épaisseur de la nouvelle maçonnerie. Et puis ce texte de 1436, il évoque également d'autres modifications, notamment la transformation des archères en archères canonnières. Et donc c'est les archères du premier étage qui sont transformées en archères canonnières. Le mâchicoulis, est-ce qu'il a été installé en même temps? Le texte n'en parle pas, mais est-ce qu'il a été installé en même temps? C'est incertain. Moi, je pense que non, parce que quand on observe les maçonneries, il semblerait qu'il y ait des coutures enfin, ça montrerait en tout cas deux phases, deux états différents. Mais ça reste à vérifier. J'évoque enfin une autre des grandes modifications majeures, la dernière, et qui, elle, a lieu au XVIIIe siècle. Ici encore, on peut relier les sources archéologiques avec des documents textuels, mais aussi iconographiques. Alors là, on se place dans les années 1780-1783, où on a d'importants travaux qui sont entrepris dans la porte des Champs et les environs. Le passage charretier d'origine est élargi d'environ 80 cm. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce plan de détail daté de 1779. Donc c'est un plan qui nous montre le projet. Donc il projetait de retirer cette partie de maçonnerie pour repousser le mur là où on a une couleur jaune-orangé. Et l'objectif, c'était de faciliter le transport des chariots et d'artillerie, des chariots d'artillerie et de poudre à une époque où le château avait plutôt une vocation qui était, on va dire, à mi-chemin entre la défense et le stockage de matériel d'artillerie. Donc tout ce mur-là est repoussé vers le sud-est et entièrement reparementé, ce qui a fait disparaître la partie basse de la rainure de la herse de ce côté-là, mais qu'on retrouve quand on lève les yeux du côté de l'Assommoir, on le retrouve ici. Et donc on voit ici dans la partie basse, hein, de cette photo que le mur a été repoussé puisque la partie haute est soutenue par des consoles. Donc on voit bien ici le changement qui a été opéré. Et puis la maçonnerie primitive a pu être observée quand un sondage a été effectué en 1998, un sondage très ponctuel, mais qui a permis quand même de repérer la maçonnerie d'origine. Je vais maintenant passer à un point que je n'ai pas beaucoup abordé jusqu'à maintenant, ce sont les bois de la porte des Champs, qui contient beaucoup d'éléments bâtis en bois. Il y a des solivages de plancher, des cloisons en pan de bois et la charpente qui sont en bois ancien. Et donc je les traite ici à part parce que leur analyse n'a pas encore été pleinement intégrée à l'étude globale. Je vais les décrire étage par étage. Au premier étage, on a un solivage. Entre le premier et le deuxième étage, un solivage qui est constitué de 14 solives qui sont disposées selon une configuration classique en temps plein que vide, qui sont débités à la Deloire et qui présentent une section rectangulaire. C'est un solivage qui est très homogène, hein, qui ne semble comprendre qu'une seule phase. Et il a des caractéristiques qui permettent, alors non pas de fournir une datation précise, mais au moins de pouvoir formuler l'hypothèse d'une datation médiévale avec un indice de confiance assez élevé. Or, on a vu que le niveau de sol entre le premier et le deuxième étage avait été modifié. Peut-être à la charnière entre le 14e et le 15e siècle. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et il est donc assez probable que ces solives soient celles qui ont été installées lors de ce changement de niveau de sol. Au deuxième étage, je le disais tout à l'heure, on peut trouver trois cloisons en pan de bois qui divisent l'espace. Ces trois cloisons sont assez similaires les unes aux autres, mais des petits détails les distinguent quand même les unes des autres. Alors, elles ont toutes des poteaux qui sont équarris à la Deloire, qui sont disposés en temps plein que vide, avec des ourdis composés de torchis, parfois complétés de quelques pierres calcaires. Et la plupart des poteaux ont des largeurs comprises entre 10,5 cm et 14 cm environ, sauf quelques-uns qui peuvent aller jusqu'à 20-23 cm. Alors jusqu'ici, la datation de ces cloisons avait été estimée à l'époque moderne, peut-être début 18e siècle. Mais la disposition générale de ces cloisons, avec notamment la présence de poteaux un petit peu plus larges que les autres, la disposition générale de ces cloisons est assez caractéristique de la fin du Moyen Âge et ça invite à proposer au moins à titre d'hypothèse une datation aux alentours du 15e siècle. Il est également possible que la cloison centrale, ici, soit un petit peu antérieure aux deux autres. Et en revanche, cette cloison ici a connu, elle, quelques remaniements plus que les autres, puisqu'elle a été modifiée dans sa partie haute ici, vraisemblablement au 18e siècle, puisqu'on a des textes qui nous parlent de modifications dans les cloisons de la Porte des Champs en 1715. Vraisemblablement. Il y a un travail également qui a été fait sur les solives entre le deuxième et le troisième étage où plusieurs phases ont pu être repérées, les phases primitives étant en bleu, à la phase le premier état étant ici indiqué en bleu. Et enfin, je passe au troisième et dernier étage où se trouve une cloison en pan de bois à nouveau, qui a été fortement remaniée dans toute la partie nord-est, hein, mais là, cette partie nord-ouest, pardon, mais cette partie ici est donc fort bien conservée. Cette partie comporte également des caractéristiques qui suggèrent une datation médiévale. Il se trouve également que cette cloison comporte des relations stratigraphiques de contemporanéité, en tout cas de contemporanéité très probable, avec les autres éléments bâtis dans le même espace. Il y a les latrines, il y a la cheminée, il y a la charpente, et qui peuvent eux aussi être attribués à la fin du Moyen Âge. Et puis la charpente, quant à elle, elle a été récemment étudiée dans le cadre du projet collectif de recherche sur le château de Caen. C'est une charpente assez classique qui comporte quatre fermes et qui est caractérisée par une forme semi-arrondie hein, qui épouse la forme du bâtiment. Et elle a un souffaitage qui est conçu selon des techniques qui rappellent d'autres charpentes de Caen des 15e et 16e siècles. Alors, je reviens sur l'ensemble des cloisons de la Porte des Champs. Ces cloisons sont très importantes, très intéressantes. Elles jouent vraiment un rôle essentiel dans la compréhension du bâtiment. D'abord parce qu'elles fournissent des éléments de datation qui permettent d'affiner le phasage de la Porte des Champs, notamment le rehaussement dont je parlais tout à l'heure. Et puis, ces cloisons, elles permettent d'appréhender la fonction résidentielle de la Porte des Champs, dans la mesure où elles divisent l'espace en plusieurs pièces, certaines pièces qui sont pourvues de cheminées. Et dans la mesure où certaines de ces cloisons forment une séparation entre des espaces résidentiels et des espaces défensifs. Donc il y a une articulation entre ces deux fonctions. Donc les cloisons, elles jouent un rôle essentiel dans la distribution des espaces, notamment dans les liens entre les chemins de ronde extérieurs et le chemin de ronde de la porte des champs, avec les couloirs, les mâchicoulis, donc tout ça qui s'articule ensemble. D'une manière générale, tous les bois, que ce soit les solives, la charpente, les cloisons, sont des clés vraiment majeures pour la compréhension du bâtiment et comme on l'a compris par la description que je viens d'en faire, leur datation est primordiale. Et donc je reviens sur cette question de la datation de ces bois. Leur simple observation ne permettra pas une grande précision de la datation, ou alors à 2 siècles près, ça ne nous avance pas beaucoup. Mais dans le cadre du projet collectif de recherche sur le château, et avec le soutien financier de la ville de Caen, il y a eu la possibilité de réaliser une campagne d'analyse dendrochronologique sur tous ces bois, afin de confirmer ou infirmer les hypothèses avancées. Alors, j'aurais beaucoup aimé vous livrer les résultats dans cette présentation des datations dendrochronologiques, mais les prélèvements n'ont été réalisés que très récemment et les datations ne nous parviendront que dans quelques semaines. Je me vois donc obligé de m'arrêter sur cette note de suspense. En tout cas, il ne fait pas de doute que ces datations permettront des avancées significatives dans la chronologie du bâtiment, puisque la qualité des échantillons qui ont été prélevés laisse espérer une très bonne précision des datations. Et donc, avec un peu de chance, on aura des datations à l'année près. Donc là, on va pouvoir fortement affiner la chronologie du bâtiment. Donc, rendez-vous dans quelques semaines ou dans quelques mois pour peut-être une prochaine communication sur la Porte des Champs. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Alban, pour cette passionnante communication, donc avec cette dernière touche de, si je peux me permettre cet anglicisme, ce teasing, voilà, quant aux analyses par dendrochronologie.
Il faut savoir manager son suspense.
Tu pourras nous communiquer les résultats, en tout cas prochainement.
C'est très intéressant.
Merci beaucoup à toi, parce que bon, voilà, même si c'est un château qui est placé juste à côté de Caen, de l'université, pardon, bah moi je n'avais jamais vu en fait ces propositions de reconstitution 3D, donc c'était plutôt chouette à voir. Et merci aussi voilà, d'avoir pu nous faire rentrer un petit peu dans l'intimité finalement du château, voilà, des pièces qui voilà, sont en temps normal pas accessibles au public. Donc, merci beaucoup. Je voudrais voilà, proposer à nos auditeurs, voilà, s'ils ont des auditrices, s'ils ont des questions, voilà, qu'ils n'hésitent pas à prendre la parole ou à rédiger dans le chat.
Je peux ?
Je t'en prie, Christophe, vas-y.
Ouais, c'est juste une remarque bon, par rapport à la partie avec les machicolis. T'es pas assuré, si j'ai bien compris, du fait que ce soit encore une phase postérieure à la phase, une phase 2 dans le 15e, si j'ai bien compris. Hein.
Oui, y a, dans le 15e siècle, il y a effectivement au moins deux phases, et je suis pas tout à fait certain que le machicoulis appartienne à la deuxième phase, il est possible qu'il appartienne à une troisième.
Voilà.
Là, les datations, comment, les datations d'Andro vont vraiment nous apporter des compléments extrêmement précieux, parce que il y a vraiment beaucoup de relations stratigraphiques au deuxième et au troisième étage qui vont nous permettre d'y voir plus clair, et on va pouvoir avoir un terminus postquem pour le machicoulis. Je devrais pouvoir savoir si ça date de 1436 ou plus tard.
Ouais.
Mais voilà,
c'était juste pour une remarque peut-être complètement à côté, hein. Mais j'ai eu le sentiment, en voyant les images que tu nous as montrées, que le calcaire était légèrement différent et qu'il n'avait pas le même rendu et le même aspect que la partie inférieure. Donc, je ne sais pas, c'est un truc qu'on avait testé avec Laurent Dujardin il y a longtemps sur Bonneville,
oui.
Sur Facebook. Je ne sais pas ça peut être discriminant, mais j'ai l'impression dans les images que le calcaire n'a pas la même coloration, la même... voilà. Alors après, bon, c'est de la surface, on sait bien qu'il y a l'érosion, il y a tout ça qui joue. Hein. Mais voilà. Ouais.
Bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses quand on regarde la porte des champs, la façade est. Quand on regarde de près, il y a des couleurs assez différentes qui peuvent être mises en évidence. Mais ça peut être lié à plein de choses, oui, l'usure, le lessivage. Il y a la pollution aussi quand on regarde la partie, le passage. Le passage Chartier, il est tout noir presque. Et donc à la poussière, la pollution, etc. Et c'est pas forcément toujours évident. Mais il va y avoir des discussions avec Laurent Dujardin pour évoquer cette question-là. Il est déjà venu visiter le site et il y aura des discussions. J'en avais discuté avec lui il y a quelques temps pour qu'on échange justement sur cette question-là, puisque moi je suis pas spécialiste de la pierre de Caen, lui s'y connaît très bien. Alors il n'est pas impossible que ce soit plusieurs types de pierres locales. Il y a la pierre de Ranville, il y a la pierre de Caen, la pierre de Creully, etc. Moi, je dois vraiment échanger avec lui pour y voir plus clair à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, ça peut être un critère discriminant. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on est quand même sur de la pierre de Caen, on n'est pas sur de la pierre de l'Oise ou d'autres pierres qui ont été utilisées pendant la reconstruction, et qui, elles, sont carrément discriminantes. On peut voir très facilement certaines reconstructions des années 60 quand c'est fait avec des pierres qui ne sont pas de la pierre de Caen. Mais oui, en tout cas, il y aura des échanges avec Laurent pour discuter de tout ça.
Merci, messieurs, pour cet échange. Alors moi, j'ai une petite question, Alban. Donc voilà, je suis un peu hors de ma juridiction, donc voilà, pardonne-moi si c'est peut-être un peu naïf, hein, mais j'avais cru comprendre, par exemple, qu'en termes de datation, pour le bâti notamment, les avancées en termes d'analyse par thermoluminescence voilà, avaient fait de grands pas ces dernières années, et notamment voilà, pour s'adapter maintenant au mortier. Et
ouais.
Voilà, on a des écarts maintenant qui sont vraiment très réduits par ce moyen de datation. Je voulais savoir si, pour dater bon, soit effectivement couplés à des textes, à l'étude architecturale ou autre chose sur des éléments vraiment précis, ou pour dater une réparation par exemple, ou autre. Est-ce que vous aviez envisagé cette piste, par exemple avec Bordeaux, donc le CRP2A, qui est mon leader un petit peu là, en France pour cette question?
Alors, pour l'instant, ça n'a pas été envisagé. Peut-être que ponctuellement, pour vérifier une datation sur une phase très mal datée, ça pourrait peut-être être envisageable. Alors, ce qu'il faut vraiment faire attention avec la porte des champs, parce que c'est malgré tout l'intérêt que peut avoir ce bâtiment, il a quand même subi des transformations, et notamment beaucoup de rejointoiements. Et donc, il faut être sûr de prélever le bon mortier, et pas du 19e siècle, qui reste intéressant en lui-même. Mais si on veut dater la maçonnerie d'origine, par exemple, ou une phase de réparation qu'on hésite à dater entre le 15e ou le 16e siècle, par exemple, il ne faudrait pas tomber sur du mortier du 19e. Donc, il y aura quand même une réflexion à faire de ce point de vue-là. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été envisagé.
D'accord, merci. Non, eh bien, j'avais mis l'adresse de contact, enfin, la page chercheur un petit peu plus haut dans le chat d'Alban. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, vous avez posé directement à Alban. Je pense que je peux m'autoriser à dire à Alban voilà, de ne pas hésiter à te contacter.
Oui, sans problème.
Très bien, parfait. Eh bien, il ne reste plus qu'à te remercier voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées en introduction et maintenant, Alban, pour cette belle présentation.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.